Ok, bonjour. On va être en direct avec un camarade qui travaille dans un hôpital à Saint-Étienne. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour. Je me présente, non, peut-être, c'est
ouais,
ça?
Ouais, tu peux te présenter, dire
donc,
un peu où tu travailles, quelles sont les conditions en ce moment et tout ça.
D'accord, donc moi c'est Hervé Perret, en fait je travaille aux archives médicales du centre hospitalier d'Hautefort, en fait du CH du Forêt, site d'Hautefort exactement, et je suis aussi représentant de la CGT en fait dans mon établissement, et membre du conseil de surveillance de mon établissement. Et donc, pour faire un petit point alors sur la situation, au niveau médical, en fait, en ce qui concerne les soins, c'est pas vraiment mon domaine, en fait. Moi, je suis plutôt un agent administratif, donc j'ai pas beaucoup d'infos. La seule chose que je peux dire, c'est que on a eu le temps d'anticiper un petit peu le pic de crise, j'allais dire. Donc, de bien se préparer pour organiser nos services, mettre des unités spéciales Covid, rendre étanche un peu la partie entre les urgences et l'UHCD où on détecte les cas potentiellement positifs. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'on a quand même des urgences qui viennent le tout venant, j'allais dire, qui étaient beaucoup limitées par contre, puisqu'en fait, avant que débutent les premières arrivées, on a été très très au calme en fait, puisque la plupart des gens, on avait déprogrammé toutes les interventions non essentielles et des gens ne venaient pas aux urgences pour rien, donc ça a ralenti l'activité. Donc ça nous a permis de nous organiser, de mettre un peu en place des choses. Après, bien sûr, on était confrontés au manque de matériel, hein, bien évidemment. Et alors, on n'est pas les plus mal lotis parce qu'on avait des stocks qui nous restaient, notamment de la grippe H1N1, avec un stock de masques à peu près, des gants, du gel hydroalcoolique. La seule problématique, c'est qu'on n'avait pas vraiment de lisibilité. C'est-à-dire que moi, j'ai posé clairement la question à notre direction, combien de masques on consomme par jour. Il me semblait que c'était pas quelque chose qui était difficile à savoir. Et en fait, on m'a renvoyé sur une réponse, mais ce n'est plus nous qui avons la main, c'est l'État qui a repris justement la mainmise sur la production. Et en quelque sorte, comme j'ai compris, donc le gouvernement donne aux agences régionales de santé, donc au niveau de la région, qui donne au centre hospitalier universitaire, le CHU, et qui lui-même ensuite rebascule sur les établissements de périphérie, c'est-à-dire Firminy, nous, le CH du Forêt, le CH du Pays du Gier. Et sachant qu'en plus, il faut que nous, une fois qu'on reçoit notre stock, nous livrons aussi toutes les petites EHPAD de notre secteur. Donc on s'est dit, on n'a pas intérêt à se tromper dans les commandes quand même. Et c'est pour ça que moi, quand on me sort, on a 14 000 masques. Si on me dit pas combien on consomme par jour, pour moi, ça veut rien dire, on a 14 000 masques. Et donc là, j'ai une petite inquiétude, parce que je me dis, est-ce que on va pas, pour l'instant, on a à peu près ce qu'il faut. On manque de surblouses, par contre. Donc s'il y a des gens qui nous entendent et qui fabriquent des surblouses, eh bien, pensez à nous. Et sinon, pour le reste, on est à peu près bon, sachant qu'on nous dit que, et c'est vrai qu'on constate une petite accalmie. Alors, c'est vite dit, c'est pas une accalmie, c'est-à-dire qu'il y a plus de cas, en fait. C'est-à-dire qu'on arrête de doubler le nombre de cas, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour l'instant, c'était sans cesse, on avait au départ 3 cas, ensuite c'était 6 cas, ensuite c'était 12 cas, ça s'arrêtait pas de doubler, même quasiment. Et là, on reste sur à peu près une dizaine d'entrées. Alors, nous, sur Feur, c'est à peu près calme, on est un petit établissement. Donc, on doit être à peu près sur 10 à 15 entrées suspectes de Covid par jour, ce qui reste à peu près gérable. Et par contre, l'inquiétude que j'ai, moi, justement, et là-dessus, en tant que représentant du personnel, c'est des choses qu'on voit, c'est la manière d'encadrer et de gérer les choses au niveau de l'encadrement, justement. Alors, on sait que depuis longtemps, ben, effectivement, vu qu'on est on n'est plus dans des objectifs de santé publique, on est dans des objectifs de réduction des dépenses de santé publique, ce qui fait que les raisonnements ne sont plus tout à fait les mêmes. Et que l'encadrement réagit justement en fonction de ça. Aujourd'hui, ils sont plus là pour mettre les équipes bien en bonne disposition pour prendre les soins. Ils sont là pour gérer des balances horaires, gérer l'absentéisme et, si possible, coûter le moins cher possible à l'établissement en termes de remplacement. Donc c'est une toute autre logique qui fait que à force, eh bien, on mène les agents à la baguette, à coup de trique, comme on dit, et c'est tu obéis et tu te tais. Et là-dessus, vraiment, là, je suis en train de faire un courrier à ma direction, justement, parce qu'on a essayé de négocier comme ça par email gentiment, mais bon, on se rend compte que ça avance pas. Donc on va passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire faire un courrier officiel qu'on adressera à l'ARS et puis aux responsables. Parce qu'en fait, j'entends des retours, mais qui sont hallucinants, quoi, du style quelqu'un qui demande comment on peut se faire dépister, par exemple, parce qu'elle est un peu inquiète. Et on lui répond, bah, écoute, si tout le monde réagit comme toi, alors déjà, on peut pas dépister tout le monde, et si tout le monde réagit comme toi, bah, bientôt, il y aura plus personne pour soigner. Donc, voilà la réponse. Ouais. Tu demandes, par exemple, quelqu'un, en fait, on sait qu'on n'est pas tous égaux face à nos peurs et nos angoisses, hein. Et on a des copains qui sont téméraires, ils mettent leur tenue de combat, j'allais dire, ils s'équipent, ils foncent dans la chambre d'un malade, pas de problème. Il y en a d'autres qui n'ont pas la même vocation, j'allais dire, qui sont un peu plus prudents. Eh ben, ceci, certains, donc c'est des retours qu'on m'a fait. Alors après, peut-être que j'exagère et que c'était abusé, mais on m'a dit quand même, il y a une cadre qui leur a dit, écoute, si tu as peur des microbes, il fallait choisir un autre métier. Donc voilà de quoi mettre en confiance les équipes, quoi. C'est magnifique d'avoir une gestion comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Ah oui, sur le service minimum aussi. Ça aussi, c'est une inquiétude et qui me concerne, parce que moi, je travaille aux archives médicales. Normalement, on n'est pas indispensable aux soins. Et il y avait des mesures très concrètes de santé publique, justement, qui visaient à instaurer un service minimum pour tous les gens qui ne sont pas indispensables aux soins. Donc moi, il se trouve, le problème, c'est que moi, aux archives médicales, si je ne suis pas là, c'est les urgences qui gèrent mon travail. Donc c'était un peu compliqué de laisser la boutique fermée. Mais au lieu d'être deux agents, on n'est plus qu'un agent, en fait. Donc ma collègue est en repos, elle est en autorisation spéciale d'absence, c'est-à-dire qu'elle ne perd ni salaire ni prime de service. Par contre, elle ne génère pas de temps de RTT, forcément, puisqu'elle est en repos. Mais c'était prévu de faire comme ça, et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des secrétaires, moi, qui sont venus me voir en me disant « Mais Hervé, on sait plus quoi tourner, on s'ennuie. » Et quand elles parlent de service minimum, on leur dit « Bah quand même, on va pas renvoyer des gens chez eux payés à ne rien faire. » Voilà encore un exemple de la mentalité des cadres, quoi. Alors que l'objectif, c'est de répondre à des mesures de santé publique, comme je disais. C'est-à-dire que quand on n'a aucune visibilité sur les masques, par contre, et qu'on sait qu'on peut économiser 5 secrétaires médicales, eh bien, 5 secrétaires médicales, c'est 10 masques par jour, c'est 50 masques par semaine, et depuis le 17 mars, c'est 150 masques qui auraient pu servir à des soignants plutôt qu'à des secrétaires médicales qui sont à l'hôpital sans savoir vraiment qu'est-ce qu'elles y font, quoi. C'était l'occasion aussi de compter sur une réserve d'agents pour une montée en charge, en fait. C'est-à-dire que si on avait besoin de plus de gens, eh bien, ils étaient en repos, ils étaient prêts à venir. Et ça permettait aussi de limiter l'exposition des personnels, quoi. Simplement, comme moi, je suis bien content que ma collègue, elle soit pas là, parce que ça évite qu'on discute trop et qu'on se contamine sans le savoir. Mais tout ça, voilà, comme je vous dis, on n'est plus dans des objectifs de santé publique, on est dans des objectifs d'économie, et le raisonnement est encore là. Alors là, ça évolue un peu, parce que j'ai réussi à faire comprendre, nous, on a une situation financière qui était extrêmement fragile avant la crise, mais là, c'est même plus la peine de compter, de raisonner sur le modèle budgétaire qu'ils ont posé, parce que le fait qu'on ait annulé tout ce qu'on avait en chirurgie programmée, toutes les consultations et tout ça, mais je vous dis même pas la note qu'on va payer, quoi. Si on reste dans la logique budgétaire actuelle, on ferme après la crise, c'est fini. Il y a plus d'hôpital du CH du Forêt. Parce que quand bien même on aurait ouvert des lits de réanimation et qu'on fait de l'activité sur les lits de réanimation qui sont assez bien facturés, c'est tout ce qu'on a perdu à côté, c'est même pas la peine, que j'ose même pas imaginer. Donc là, c'est l'ARS, en fait, qui a ouvert les vannes, comme il nous dit, donc, et paye toutes les demandes de matériel dont on a besoin. Ce que je remarque aussi, et qui est excellent par contre, c'est qu'on a récupéré nos vrais lits de réanimation sur Montbrison, puisqu'en fait, on avait fermé la réanimation à Montbrison en 2005. Hein, ça correspond un peu, je pense, à ce qui s'est fait depuis des années, c'est-à-dire que ça coûtait trop cher, on n'avait pas besoin de tant de lits de réanimation, donc on en a supprimé. Et aujourd'hui, ben, en fait, ils nous ont redonné l'autorisation. Alors nous, ce qui était formidable en plus, c'est qu'en fait, on avait fermé l'unité de réanimation transformée en soins intensifs polyvalents. Et les soins intensifs polyvalents, finalement, c'est à peu près de la même configuration, c'est-à-dire qu'on a quasiment besoin du même nombre de personnel, mais sauf qu'on n'a plus le budget qui va avec, il nous en manque la moitié. Donc ça veut dire qu'on générait un déficit de 500 000 euros à peu près par an, puisqu'on n'avait pas le budget pour faire tourner notre soins intensifs polyvalents. Et là, dernièrement, l'ARS nous a dit, bon, ben, vu l'exceptionnalité de la situation, on va vous redonner l'autorisation des lits de réanimation jusqu'au 31 octobre prochain. Et moi, dans ma tête, ça m'a fait sourire, parce que je dis, non, c'est pas jusqu'au 31 octobre prochain, les amis, c'est pour toujours. Parce que maintenant, on va plus les lâcher, ces lits de réanimation. Il faudra vraiment qu'ils nous marchent dessus, je pense, pour qu'on les lâche. Il faut bien qu'ils en soient conscients. Parce que là, en fait, de l'extérieur, il y a des gens qui pensent que... Alors, c'est vrai, on fait tout notre possible pour répondre à notre mission de service public et de tout faire en sorte de prendre la population le mieux qu'on peut, mais il y a une colère dans les établissements qui va sortir à la fin de la crise, et je pense, moi j'en suis content quelque part, même si j'aurais préféré faire autrement, mais vu que je ramais un peu tout seul avec mes copains, mes camarades syndicalistes et tout, là je me dis que peut-être il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont agir avec nous, et j'espère bien qu'on va réussir justement à ne plus se retrouver dans ces situations-là. Parce que ça fait un peu peur à tout le monde. Et il y a un dernier point important aussi, c'est justement, il y a plein de gens qui n'ont pas compris que lorsqu'on s'engage dans un hôpital public, on doit remplir une mission de service public, en fait. Et là-dessus, ça donne l'occasion justement de dire à ceux qui critiquent les fonctionnaires et qui nous traitent de privilégiés par moment, qu'effectivement, on a une situation qui est plus favorable que dans certains domaines, c'est-à-dire qu'on a une visibilité et sur notre carrière et puis une certaine stabilité de l'emploi. Mais à côté de ça, voilà, ça se paye par un prix, justement. Quand tout va mal, aujourd'hui, je suis pas sûr que les gens qui nous considèrent comme des privilégiés, aujourd'hui, ils aient la même considération. Parce que je pense que, oui, voilà, en fait, alors moi, je suis aux archives, je ne veux pas dire que je risque ma vie, mais n'empêche que je peux être contaminé, comme beaucoup.
Bah oui.
Mais toutes les copines et les copains qui sont soignants et qui sont, pour certains, contractuels, sur qui on tire sur toutes les ficelles, c'est-à-dire qu'on ne les paye pas sur les bons échelons, on ne leur donne pas le bon statut, ils sont contractuels depuis des années. Quand ils mettent fin à leur contrat, on essaye même de les arnaquer sur le chômage, de leur dire, écoute, on avait voulu renouveler ton contrat, donc vu que tu ne veux pas le renouveler, ben, c'est toi qui perds ton emploi, donc tu n'auras pas droit au chômage. Et donc, quand on fait tout ça à force, eh bien, il ne faut pas espérer en retour des miracles. C'est-à-dire que la vocation de soignant et de soigner, quand on est dans une crise comme ça où les gens meurent, moi, il y a des gens qui m'ont dit clairement, ils m'ont dit, mais j'ai compris, en fait, moi, je suis pas fait pour ça, j'ai pas envie de mourir pour les autres, pour 1500 euros par mois, et ça se comprend parfaitement. Et ça nous donne l'occasion à nous de justement défendre nos carrières, notre statut, puisqu'en fait, si on veut avoir un hôpital public fort, avec des gens qui ont une vraie vocation, eh bien, il faut en face qu'il y ait une reconnaissance professionnelle et avec une carrière identifiable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on sait qu'on commence à tel niveau, qu'on finit à tel niveau et qu'on a une retraite qui va avec. C'est la seule garantie après pour permettre ça. Et là, moi, la peur que j'ai, c'est qu'après la crise, il y a plein de gens qui vont aller voir le DRH en disant, écoutez, moi, je demande... Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut prendre une disponibilité, c'est-à-dire une sorte de congé sabbatique pour se reconvertir. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça, en fait, hein, parce que il y a des agents qui ont eu très peur, quoi, qui ont plus envie de risquer leur peau parce qu'on sait pas trop vers quoi on va. On connaît pas forcément sa propre santé, si on va résister ou pas. Donc, ça peut entraîner une forme de désengagement, en fait. Voilà, les amis.
Écoute, tu nous as adressé un tableau de la situation qui n'est pas tout à fait de nature à nous rassurer, mais quand même, je retiens le petit point positif, c'est que effectivement, la colère gronde, et j'espère effectivement qu'à la fin du confinement, on ne sera pas à se demander si on ferme des lits d'hôpitaux, etc., mais plutôt comment on chasse ces gens qui nous font chier depuis 15 ans et qui mettent l'argent avant le bonheur, la santé, etc.
Oui. Exactement. Bah, surtout que nous, justement, on est confrontés à ça, puisque j'imagine que vous avez entendu ce qui s'est passé dans l'Est, justement, où le CHU de Nancy avait un plan de retour à l'équilibre avec plus de 500 suppressions de postes, et ils ont annoncé, alors le ministre a un peu tempéré, mais n'empêche que le directeur de l'ARS a annoncé qu'après la crise, il n'y aurait aucune raison de ne pas faire ce plan de retour à l'équilibre. Eh bien, nous, pour le CHU du Forêt, on se retrouve un peu dans cette situation. C'est-à-dire qu'à la sortie de la crise, vu la situation financière qu'on avait avant, il risque de nous tomber dessus un plan de retour à l'équilibre massif. Donc, je suis bien d'accord avec toi sur la nécessité de chasser ces gens-là, de chasser cette logique qui veut qu'on rentabilise les hôpitaux, qu'on rentre dans un système productif et tout ça, donc il est temps de revenir en arrière. Et moi, la leçon que je tire d'un point de vue plus politique, justement, qui ferait aussi peut-être réagir le système capitaliste, c'est qu'aujourd'hui, on a la démonstration qui est faite qu'il n'y a aucune économie possible sans un service public de santé fort, puisque la preuve en est aujourd'hui, quand on n'est pas en mesure d'arrêter une épidémie, l'économie s'arrête et tout le monde perd de l'argent. Même ceux le plus capitaliste qui a ses petites thunes de son côté et qui veut pas partager avec personne, eh ben lui aussi il se retrouve comme un couillon, j'allais dire. Donc ça, peut-être c'est aussi un point qui peut nous aider à convaincre le plus de monde possible de sortir de ce monde de fous.
Ouais, donc peut-être même plutôt que de revenir en arrière, parce que tout à l'heure on disait ça fait 15 ans, mais ça fait bien plus longtemps. C'est peut-être plutôt que on se mette ensemble pour aller de l'avant, pour redéfinir des priorités qui soient les nôtres et qui soient pas celles de gens qui dirigent des entreprises et de gens qui sont dans des partis politiques qui pensent qu'à leur intérêt propre, qu'à un intérêt de classe. Et donc redéfinir nous ces priorités ensemble dans le sens commun et se battre pour que ce soit ces priorités-là qui détermine nos vies à tous et toutes.
Exactement, oui.
Oui, parce qu'on voit bien que quand c'est... Pardon ?
Non, vas-y, excuse-moi, je te coupe.
Non, je voulais juste dire que on voit que dans bien des domaines où l'État fait défaut, le gouvernement ou l'État, de toute façon, c'est toujours les mêmes conneries. En tout cas, horizontalement, on voit que les gens, eux, s'organisent. On reçoit plein de témoignages de gens qui s'entraident, qui essayent de trouver des masques dans leur société pour donner à leurs compagnons infirmiers. Enfin, on reçoit plein de témoignages de cet ordre-là, des enseignants qui se débrouillent pour débloquer des tablettes pour des élèves qui sont défavorisés, qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Et tout ça, c'est juste horizontale. Les ordres là-haut, ça ne vient pas. Les seuls moments où ils sont aptes, c'est envoyer de la répression, envoyer des gens en prison. Ça, oui, ça, ils savent faire. Menacer, ils savent faire. Inquiéter, ils savent faire. Mais le reste, voilà.
Mais tu as raison, cette horizontalité, justement, ben moi, j'ai essayé de la. Justement, dans le cadre du service minimum pour nos adjoints administratifs, quand les secrétaires sont venus vers moi pour me dire, justement, ben oui, mais notre hiérarchie, ils nous ont dit qu'on ne ferait pas comme ça, je leur ai dit, organisez-vous par vous-même. C'est vous seul qui connaissez, en tant que secrétaire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Et en fait, ouais, mon envie, c'est de ça, c'est de leur dire, habituez-vous à faire sans eux, parce qu'avec eux, on n'arrivera nulle part à rien. Il faut leur mettre, il faut leur faire un électrochoc pour qu'ils comprennent que, justement, que voilà, les choses, il faut qu'elle soit différente.
Ouais, moi, je suis instit. Et en fait, dans les écoles, et notamment pour gérer l'accueil des enfants de personnel soignant, en fait, pareil, on a été obligé de recourir à l'auto-organisation, ce qui est en fait un mal pour un bien, parce que ça fait prendre certaines habitudes. Mais sinon, en fait, les chefs n'étaient plus là, quoi. Pendant une semaine, il n'y avait plus de pilote dans l'avion. Et donc, c'est les gens qui, à la base, se sont auto-organisés pour ça. Et puis après, on les a vus revenir avec leur vieux démon, comme tu dis, leur grande crainte, c'est qu'on soit payé à rien faire. Donc leur grande crainte, c'est qu'il y ait des secrétaires qui restent chez elles et qui soient payés quand même. Donc ils préfèrent les faire venir au risque du coup.
À ne rien faire en fait. C'est ça qui est, en fait, même la cohérence de leur idée est stupide, parce qu'en fait, quand ils me disent ça, on va pas payer déjà à rien faire. En fait, c'est stupide parce que les agents, ils sont déjà à rien faire à l'hôpital.
Oui.
Donc non seulement il faut qu'ils s'y fassent, oui, ils sont payés à rien faire, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a des morts, tout simplement, et que s'ils restent à l'hôpital, on les expose encore plus et on expose tout le monde en plus.
Exactement.
C'est
non mais c'est
complètement hallucinant.
Ils sont complètement inconséquents en fait. Enfin moi je dis c'est des criminels ces gens. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui se passe depuis le début de cette crise sanitaire, ça relève
oui,
du criminel.
Après, c'est vrai qu'il y a une certaine fatalité. Je veux bien l'admettre que le virus, malgré tout ce qu'on aurait pu mettre, il aurait fait certainement du mal. Mais effectivement, depuis le temps qu'on crie sur le manque de moyens et que nous, on avait peur justement qu'un jour, pour ma part, je pensais pas à ça, à un virus comme ça. Je pensais plus à des événements climatiques qui allaient créer une confusion et des besoins plus importants. Et qu'on allait se retrouver en difficulté, mais là, c'est ce qu'on dit. Bah ouais, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est un peu un bien pour un mal. Alors c'est vrai que c'est très triste, hein, parce que certains, on a tous des proches qui sont menacés ou peut-être même qu'on a perdu autour de nous. Et donc c'est compliqué de dire c'est un bien pour un mal. Mais finalement, moi c'est ce que je dis. J'ai vu un article qui disait ça. Aucune organisation syndicale et aucun révolutionnaire, j'allais dire, aurait réussi à autant paralyser l'économie et à faire en sorte que justement qu'on ait la possibilité de réfléchir autrement et de reconstruire. En fait. Donc, à mon avis, c'est peut-être notre dernière fenêtre de tir pour changer tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper et il faut y mettre tout notre cœur. Moi, je pense qu'après ça, j'étais déjà pas mal engagé, mais j'avais pris un peu de recul. Je faisais du théâtre et des choses pour un peu m'épargner et tout. Mais je pense que maintenant, oui, si ça vaut la peine, c'est toujours pareil parce que cette réflexion que je me fais, c'est que quand on voit qu'on rame et qu'on n'est pas très nombreux, finalement, on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Mais si beaucoup de gens s'y mettent et que je sens qu'il y a vraiment, je reprendrai mon bâton de pèlerin, comme on dit, de plus fort, de plus belle. Et j'espère que ça changera vraiment quand on sera en mesure de reconstruire un autre monde. Parce que le côté positif, moi, ce que je vois, c'est quand je fais la route, justement, on voit la nature qui reprend un peu ses droits. De regarder le ciel sans aucune trace de kérosène, sans aucun trait blanc, c'est des petits détails comme ça, mais c'est agréable. Alors, je sais que ce ne sera pas possible, on aura toujours besoin d'avions et tout ça, mais n'empêche que ça fait réfléchir, quoi. Ou de voir la Loire aussi, je traverse tous les jours le pont de la Loire, justement, puisque je viens de Montbrison jusqu'à Sœur, et on voit que la Loire, elle est de plus en plus claire et de plus en plus propre, et que voilà, quoi, qu'on peut aussi se sortir de ce contexte écologique angoissant aussi, si on donne la peine. Même si la réponse économique, en face, c'est compliqué, j'en suis bien conscient.
Bah, c'est toujours à redéfinir nos priorités. Et en tout cas, tu pourras, je voulais te dire, et tu pourras savoir qu'aujourd'hui, je crois que c'est une journée d'action pour l'hôpital. En tout cas, en région
Ah oui, je suis
parisienne, il
même
y
pas
a
au
des
courant.
gens qui ont, bah, y a des camarades qui ont défini qu'aujourd'hui, ça devait être une journée d'action par rapport à l'hôpital. Et que donc, il y a
D'accord.
plein de banderoles. Hein, on m'a envoyé des photos, plein de banderoles du fric pour l'hôpital, pas pour les flics, ou
Ah
du
oui,
fric pour
d'accord.
l'hôpital public. Où ils comptent leurs sous, on compte nos morts. Et ce soir à 20h, ça sera une manif spéciale hôpital de tous les balcons et de toutes les fenêtres.
Ah d'accord, ben
En
j'étais
tout
même pas au
cas, dans le
courant, c'est pas
nord-est
mal
parisien.
ça.
Bah, oui, c'est peut-être pas. En fait, c'est peut-être des initiatives locales, mais en tout cas, il y a ça comme initiative
D'accord,
et
oui.
qui a l'air de bien, en tout cas, de bien fonctionner. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pris conscience que le service public et que l'hôpital public, c'était un bien commun qu'il fallait préserver et qu'il
C'est
fallait
ça.
se battre pour ce bien commun.
C'est ça. Ben moi, comme je le dis souvent, en fait, c'est pas. On nous présente la santé comme une dépense publique, et déjà, je leur dis non. C'est pas seulement une dépense publique, c'est de la production publique. C'est-à-dire qu'en fait, on produit. Par exemple, l'hôpital de Feurs a longtemps été le premier employeur de la ville de Feurs. Derrière, il génère des emplois indirects, il génère de l'économie et il participe à la création de richesses. Donc, c'est pas que de la dépense publique, c'est de la production publique. Et pour terminer, je dirais que c'est un investissement sur l'humain. Et ça, bien sûr, ben, l'humain, quand on sait où c'est qu'on le met dans nos politiques actuelles, ouais, forcément, on n'a pas trop envie d'investir sur l'humain, et pourtant, il faudrait peut-être.
Ok, eh ben, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à dire. Il y a un
Ben non, là, je
camarade
crois
qui
que j'ai fait le
veut.
tour, hein.
Ben, en tout cas, c'est super complet ce que tu as dit. Vraiment,
Ouais, c'est vrai.
bravo,
Ouais. Ben
merci.
merci.
Et il y a un camarade qui veut te lire quelque chose là, je crois.
Oui.
Oui, juste par rapport à ce que tu étais en train de dire là, et je suis tombé sur une petite brève là. Et on a une personne qui est très inquiète. Il s'appelle Bruno Le Maire. Alors lui, il dit, la France va vraisemblablement connaître sa pire année de récession économique
Oui.
en 2020 depuis la fin de la dernière guerre mondiale, a estimé ce grand ministre de l'économie, qui est Bruno Le Maire. Voilà les inquiétudes de cette personne-là. Ça nous en fera une de plus à mettre dans notre besace, mais elle est tellement loin que par rapport
Oui,
à
c'est
tout le
vrai qu'elle est un
reste
peu
qui nous
loin.
préoccupe, hein. Voilà. En tout cas, merci. C'était vraiment bien et clair.
Eh ben,
Et
je vous en
juste, je
prie.
voulais savoir, vous,
Oui.
donc, vous n'avez pas de gens qui soient testés parmi le personnel soignant.
Qui soit?
Testés pour savoir s'il peut
Si, en
continuer.
fait, les gens qui présentent des symptômes parmi des professionnels de santé, en fait, si on présente des symptômes, si, on est testé. Mais il faut vraiment présenter les bons symptômes, hein, c'est-à-dire, il faut pas que tu aies juste un des symptômes ou un petit peu. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu aies de la fièvre, une toux. Ouais, je crois que c'est ça,
Perte
toux, mal de
d'odorat.
tête, fièvre. Mais non, pas ça.
Ah
En
non.
général, ça intervient un peu après. Donc,
Ah.
dans la prévention, c'est plutôt fièvre et toux, en fait,
D'accord.
qui est vraiment. Et puis, mais après, c'était vraiment. Ben, c'est toujours pareil. C'est comme les masques. Vu qu'on n'avait pas fait de test, et au lieu de nous dire la vérité d'emblée, c'est non, non, c'est inutile de tester parce qu'on ne sait pas ceci. Moi, j'ai l'exemple d'une secrétaire, par exemple, qui était. Ben là, elle est revenue cette semaine. Donc, fort heureusement pour elle, ça s'est bien passé. Elle s'en est remise. Mais elle a eu tous les symptômes. Elle n'a pas été testée. Elle a eu même le symptôme de la perte d'odorat, justement. Donc, on se dit qu'effectivement, il y a quasiment vraiment 90% de chances qu'elle l'ait vraiment eu. Mais sauf qu'elle n'a pas été dépistée. On lui a simplement dit, bah, écoute, t'as pas l'air très en forme. Si tu dis que tu as de la fièvre et tout, reste chez toi pendant 14 jours. Confine-toi, fais attention avec tes enfants et tout. Mais on n'a pas testé plus que ça. De la même manière qu'on ne teste pas. Alors après, je voudrais pas faire peur aux gens sur le nombre de décès qu'on présente dans la Loire et tout. Mais en étant aux archives médicales, j'imprime la liste des sorties et des entrées, donc je vois à peu près ce qui se passe et le nombre de décès dans les sorties. Et si je sais qu'effectivement les gens ne décèdent peut-être pas tous pour ces raisons, mais c'est pareil, on ne prend pas le temps on met pas un tampon Covid sur tous les décès, mais je peux vous assurer qu'il y a eu une augmentation significative du nombre de décès, même sur notre site. Après, je veux pas être alarmiste non plus, hein, mais j'en ai vu. Disons qu'en règle générale, sur 3 semaines, on est plutôt aux alentours de 5-6 décès, on va dire. Allez, voilà. Et là, on était plus proche des 20, quoi. Ça avait, il y a vraiment une augmentation significative du nombre de décès. Donc moi, quand j'ai vu passer dans la Loire qu'il y avait 40 décès il y a quelques temps au total dans la Loire, alors que j'en avais déjà 10 ou 15 sur le simple site de Feurs, ouais, je me dis, voilà, c'est peut-être qu'on veut limiter. Alors, il faut pas faire peur aux gens non plus, hein. Tout le monde ne meurt pas. Il y a des gens qui reviennent de réanimation. Nous, on a des gens qui sortent aussi, qui rentrent à domicile. Voilà, en fait, la difficulté, c'est de savoir, ouais, comment évolue, en fait. Il y a des tableaux cliniques différents. Des moments, ça évolue mal pour certains patients. On comprend pas trop. En règle générale, ça se passe plutôt bien, mais voilà, quoi, c'est... Mais quand même, et je me dis, il faudrait pas non plus que ce soit après une manipulation de plus pour nous faire dire à la sortie de la crise, eh ben vous voyez comme ça s'est bien passé, comme nous avons bien géré, donc il y a aucune raison de revenir en arrière.
Oui.
Donc, mais après, de toute façon, moi je suis pas inquiet puisque même s'ils essayaient de limiter le nombre de décès, c'est tellement impossible puisque après il y a le civil qui est obligé de faire un état des lieux, il y a les commandes de cercueils, enfin c'est assez glauque hein, de parler de ça, mais voilà quoi, c'est pas possible de cacher le nombre de morts. Donc
non, par
moi,
contre,
je pense que ceux qui sont pas en capacité de mesurer et de vouloir dépister pour dire ben voilà, celui-là il est vraiment mort du Covid. Et après, on a des patients qui seraient décédés quoi qu'il arrive parce qu'ils ont des problèmes cardio, ils ont des problèmes pathologiques. Mais n'empêche que quand même, moi je remarque oui, qu'on peut dire qu'il y a un effet significatif sur la population du nombre de décès.
Et le fait de ne pas tester non plus les gens, mis à part le fait qu'effectivement ils n'ont pas suffisamment de tests parce que c'est encore un truc qu'ils n'ont pas prévu. Ça permet aussi de jouer sur les chiffres et sur ce qui pourrait se passer après, parce qu'en ce moment, il y a quand même des gens qui sont en train d'essayer de s'organiser parce qu'ils estiment avoir été mis en danger dans le cadre de leur travail. Et donc, le fait de ne pas être dépisté officiellement, mais même si on a présenté tous les symptômes, ça peut les prémunir plus tard de plaintes collectives, de plaintes collectives éventuelles. Que des gens, je sais, sont en train de faire dans différents secteurs, tels que je sais qu'à l'éducation nationale, c'est en train de se faire aussi. Et donc, on dira, non, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous avez eu le Covid-19?
Rien du tout. Et oui. Mais précisément, justement, sur cet aspect-là, c'est vrai qu'en fait, on se dit que si on avait eu la capacité, donc là, c'est vraiment de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire que si on avait pris, nous, ça fait longtemps qu'on demande un pôle médicament, un pôle public du médicament, justement, pour être autonome, être en mesure de créer nos molécules et nos vaccins et tout ça. Et si on avait été en capacité de mettre en œuvre des tests, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple de tester tous les professionnels de santé et de dire, bon, toi, c'est bon, tu es apte au service, t'es pas positif, toi, tu es contaminé, tu restes chez toi, déjà, ça aurait été beaucoup plus responsable et efficace. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'étanchéité de notre système sur le site de Feurs entre l'UHCD et le tout venant des urgences. Mais c'est vrai que c'est limité aussi, parce qu'en fait, on a 6 ou 7 chambres, je crois, de détection des cas suspects. Et comme on sait que le test, en fait, il prend minimum 4 heures pour aller au labo, revenir, et qu'on ait une idée de la personne si elle est positive ou négative et qu'elle soit ensuite orientée vers les bons services. Dès qu'on arrive à remplir ces lits, c'est-à-dire tous les gens qui viennent aux urgences ensuite derrière, entre le cas qui va venir pour une coupure, une hémorragie, qu'il est obligé de venir aux urgences, et le gars qui est suspect de Covid, ils peuvent se retrouver dans la même salle d'attente parce qu'on n'a pas organisé non plus les choses à fond par rapport à ça. Ça, c'est une autre remarque dont on a discuté dernièrement, puisque en fait, il y a plein d'établissements qui ont mis en place des toiles de tente devant, justement, pour bien garder étanches les deux. Et nous, là-dessus, il y a quelques interrogations quand même. Alors ça, comme je vous dis, on n'est que sur 10 entrées par jour, donc ça, c'est pas non plus... on n'est pas dans l'Est avec au taquet, justement, mais justement, c'est encore plus inquiétant, parce qu'on se dit qu'à ce niveau de 10 entrées par jour, on devrait vraiment faire les choses de façon 100% efficace, quoi. Et là-dessus, moi, des retours que j'ai de certaines personnes aux urgences, il y en a certains que ça interroge quand même, de se dire, l'autre jour, il y avait quand même ce patient qui est venu, qui me dit qu'il est suspect pour qu'il a de la toux et tout, et je lui dis, allez dans la salle d'attente, alors qu'il y a un patient qui attend pour un problème qui a rien à voir et qui est pas... Donc là, on en a parlé, donc on va certainement améliorer ça, mais bon, voilà, c'est en même temps, on est un peu dans l'inconnu, on navigue à vue d'œil, comme on dit, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression de soigner des gens, mais peut-être qu'on en contamine autant, quoi.
Non, mais nous, on a au moins l'honnêteté de reconnaître qu'on navigue à vue d'œil, alors que les gens qui prétendent gouverner, eux, disent qu'ils maîtrisent tout.
Ils sont dans l'assurance et dans l'arrogance, mais ça, on commence à s'habituer.
Ouais. Bon, bah, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais
Eh
vraiment,
ben non, je crois que ça va
merci,
être bon.
hein.
En plus, je vais
C'était
rentrer dans mon
hyper
petit
complet.
travail quand même, parce que j'y suis, même si, comme je vous dis, en fait, moi, je suis plutôt sur une garde administrative médicale aux archives, c'est-à-dire que je monte les dossiers dans les services, des dossiers qui sont vraiment vitaux pour les patients, et on essaye de m'épargner, de pas trop m'exposer non plus à monter systématiquement comme je peux le faire avant, c'est-à-dire monter tous les dossiers des patients qui viennent à l'hôpital. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de temps aussi pour répondre à mes collègues syndicaux, parce que d'habitude j'ai des permanences syndicales, et ça aussi c'est une chose que je voulais dire, si quand même, c'est que nous on a pris nos responsabilités quand même, pour la plupart. Alors on a trois syndicats, hein, on a FO, CGT, CFDT, et la plupart on s'est proposé, on s'est dit que ben voilà, de toute façon ce serait compliqué de faire de remplir notre rôle syndical qu'on remplit habituellement. On a gardé quand même le CHSCT, un lien bien évidemment pour protéger les salariés, mais on s'est tous proposés autant qu'on était, puisqu'il y a beaucoup de soignants, d'aides-soignants, de gens qui ont été cadres aussi. Et donc pour la plupart, on est tous à nos postes de combat, comme on dit. Mais on n'a pas oublié nos engagements, et c'est ça que je vais rappeler justement dans le courrier que j'ai envoyé à la direction tout à l'heure, de leur dire qu'on sera toujours là pour revendiquer, qu'on note, même si on n'a pas le but de tout faire remonter pour l'instant, on note tout ce qui se passe et on le fera. Je voudrais aussi remercier tous les camarades du département, parce que là aussi c'est des choses, parfois on critique les permanenciers syndicaux qui sont payés à 100%, mais n'empêche aujourd'hui heureusement qu'ils sont là, parce que eux sont disponibles, et même s'ils sont confinés, ils passent des coups de fil, ils se bougent les fesses comme on dit, ils font remonter aussi bien à l'ARS qu'au ministère tous les dysfonctionnements qu'on note dans nos établissements, et ils sont d'une grande aide, et je voudrais les remercier, leur souhaiter bon courage pour ceux qui écoutent peut-être à cet instant. Et puis remercier aussi les gens du comité de défense, et comme tu le disais tout à l'heure, nous aussi on a beaucoup de gens qui viennent nous donner des dons différents, soit de matériel médical. On a eu des bouteilles de Badoit orangées, par exemple. On a plein de petits gestes comme ça de solidarité qui font bien plaisir quand même. Et donc ben, il faut les remercier, tous ces gens-là. Voilà ma conclusion, les amis.
Bah écoute, merci. Normalement, demain, on va faire également un point avec les hôpitaux de Lyon. Donc
D'accord.
voilà, on reste voilà. Et en tout
OK.
cas, tu n'hésites pas à rappeler s'il y a besoin, si voilà, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il ne faut pas dire les choses, parce que dès que le confinement s'arrêtera, on sera encore
Eh
plus
oui.
aguerri. Ok,
OK.
salut.
Salut, merci à vous. Bon courage.
Les confinés parlent aux confinés. Radio, on est là.
I love the colorful clothes you wear.